Chronique de confinement. Le masque et la prune. Une capsule sonore qui donne la parole aux bénévoles de prune depuis chez eux. Récit, billet d'humeur, création. Retrouve le quotidien de celles et ceux pour qui le confinement se raconte.
Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h, c'est l'heure du masque et la prune. Je suis John et je vous accueille pour votre dernière émission du mercredi de la saison. Et pour fêter ça, on commence avec les éphémérides de John.
Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super, les éphémérides.
Oui, 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 oui. Alors que s'est-il passé un 17 juin? On commence en 1579, lorsque Francis Drake découvre la baie de la Californie, qu'il nomme alors Nova Albion. 1843, soulèvement maori contre les Anglais en Nouvelle-Zélande, premier conflit des guerres néo-zélandaises. 1944, la République d'Islande est constituée, mettant fin à l'union de l'île avec le Danemark. 1953, un soulèvement ouvrier éclate à Berlin-Est, le motif immédiat est le refus d'une hausse des cadences de travail. 1972, début du scandale du Watergate, lorsque 5 cambrioleurs, repérés par un agent de sécurité, sont arrêtés par la police dans l'immeuble du Watergate, au siège du Parti démocrate. Il s'agit en réalité d'agents secrets envoyés par Nixon, bref, la suite vous la connaissez. 1991, le Parlement sud-africain abolit le dernier pilier de l'apartheid, le Population Registration Act, qui classifiait les Sud-Africains à la naissance en fonction de la race. On passe aux naissances. 1882, celle du compositeur russe à qui l'on doit le Sacre du Printemps, Igor Stravinsky. 1952, chanteuse québécoise et interprète de Marie-Jeanne dans Starmania, Fabienne Thibault, on l'écoute chanter Le Monde est Stone. En 1959, Francis Ginibre, humoriste toulousain, il forme avec Éric Carrière le duo Les Chevaliers du Fiel. 1962, c'est l'anniversaire de la chanteuse Lio, partisane de la liberté sexuelle, on pouvait déjà l'entendre chanter en 1980. D'ailleurs, 1980, tenniswoman la plus célèbre, à moins que ce soit sa sœur. Bref, on souhaite un bon anniversaire à Venus Williams. Et pour finir, le 17 juin 1818, voyez le jour Charles Gounod. Principalement réputé pour ses opéras, il écrira néanmoins le célébrissime Ave Maria sur un prélude de Jean-Sébastien Bach, qui sera repris tel quel d'ailleurs par Schubert. Enfin bon, c'est le bordel. Alors nous allons plutôt écouter un extrait du ballet de l'opéra Faust, œuvre fondatrice du romantisme en France. We'll be right back. Il est à présent temps de passer à notre dernier sommaire de la saison. Un sommaire assez succinct. En effet, on sent bien que c'est la fin de l'année puisque tout le monde est déjà parti en vacances. Alors pas d'interview, pas de reportage, pas de chronique. Seul le Labo des Savoirs a bien fait ses devoirs. Et ils nous donneront un dernier capsule de science. On écoute ça tout de suite.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous.
Humanité confinée, déconfinons les idées. Capsule de science, par le Labo des Savoirs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des Savoirs. C'est un processus de très longue haleine, la transformation de notre modèle énergétique encore largement dominé en France par le nucléaire et les énergies fossiles, pétrole et gaz notamment. D'après le ministère de la Transition écologique et solidaire, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie est passée de 9,3% en 2006 à 16% en 2016. Cette mutation est un impératif pour respecter l'accord de Paris sur le climat signé en 2015 puis ratifié par la France et qui vise à contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés à la fin du siècle. La transition écologique fait partie des quatre thèmes retenus donc par le gouvernement. Et derrière cette expression, c'est bien du défi du développement des énergies vertes qu'il s'agit. Éolien, photovoltaïque, solaire, ces nouvelles techniques ont vocation à remplacer les énergies fossiles. De la fabrication à la consommation de ces ressources, en existe-t-il une qui soit réellement propre ? Quelle réalité scientifique pour la transition écologique ? C'est le thème de cette nouvelle émission enregistrée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes dans le cadre de la Fête de la Science 2019.
Alors oui, tout à fait Agathe, je suis actuellement sur le terrain. Je n'ai pas pu croire ce que je lisais pendant cette recherche pour cette chronique sur le clitoris des hyènes. Donc je suis moi-même allé vérifier sur le terrain. Alors, il faut savoir que les hyènes font partie des seuls mammifères, hein, il y en a très très peu à avoir des clitoris géants. Alors j'ai un groupe de hyènes là, en face de moi. Oui, c'est incroyable, je les vois. C'est un clitoris géant qui fait à peu près une trentaine de centimètres. Alors c'est incroyable parce qu'à l'arrière, il y a même ce qu'on pourrait prendre pour des testicules qui sont en fait la fusion de la vulve et du vagin. C'est incroyable, on a cru jusque dans les années 60 que les hyènes étaient hermaphrodites, mais non, pas du tout. C'est bien un clitoris géant capable d'érection que nous avons en face de nous.
J'ai choisi de parler de l'homéopathie car c'est un sujet d'actualité. On parle du déremboursement, l'université de Lille arrête d'enseigner l'UE, donc l'unité d'enseignement sur l'homéopathie, la période de grippe va commencer, etc. Et en période de fête de la science, dont le thème est les idées reçues, je pense qu'il est important d'en parler. Alors l'homéopathie, c'est quoi ? C'est une pratique qui émerge il y a 200 ans. Samuel Hahnemann en est l'auteur. Il observa que le quinquina, utilisé à faible dose pour lutter contre les symptômes du paludisme, provoquait à forte dose des fièvres qui lui faisaient penser à cette maladie. Il se dit alors qu'une petite dose de poison pourrait avoir un effet soignant sur une pathologie aux symptômes analogues. Homéopathie, art de soigner par le même.
Espace. Étrange mot pour désigner une étendue entre deux points. D'autant plus étrange qu'il désigne également son opposé, les cieux obscurs sans limites visibles entourant notre noyau de vie, la Terre. Cet espace aux dimensions titanesques nous semble aller au-delà de notre nature de référence. Nous sommes seuls sur notre rocher. Pourtant, depuis un bon moment, nous avons compris qu'autour de nous se jouait une ronde céleste, ou plutôt que nous étions une danseuse parmi d'autres. En comprenant notre situation, la question de l'au-delà fut repoussée. Qu'y a-t-il plus loin ? Pour répondre à cette interrogation, la fin des années 80 vu le début d'une nouvelle chasse astronomique, la détection des exoplanètes. Nous savions déjà que d'autres soleils existaient. Il devait donc logiquement exister d'autres mondes dans ces systèmes stellaires. Contempler ces lointains amas de matière nous en apprendrait davantage sur notre vision de la nature et de ses forces, ici, autour de notre propre étoile.
La science dans tous ses états au Labo des Savoirs.
Hélène, je crois que vous avez un cas précis à nous expliquer. Oui, en effet. Alors, Coder l'avenir, c'est en fait un titre assez intriguant. Et j'ai essayé de me demander si Madame Irma avait été remplacée donc, par Dounia, ici présente, jeune programmeuse dynamique, n'est-ce pas ? Et sa boule de cristal par un ordinateur couplé à un serveur de calcul super puissant. Donc, peut-on lire finalement dans les lignes de code mieux que dans du marc de café ? On vous en a déjà un peu parlé, mais je vous le confirme, rien n'est moins sûr. Il existe de nombreux domaines de recherche qui ont recours aux programmes informatiques pour réaliser des prédictions. Mais moi aujourd'hui, je vais vous parler d'épidémiologie. C'est l'étude des maladies et des facteurs pouvant influencer la fréquence des épidémies, leur distribution dans le temps et dans l'espace, pour in fine, on l'espère, concevoir des stratégies pour les endiguer. Si vous avez joué au jeu de société Pandémie ou sur l'appli Plague, vous êtes d'ailleurs probablement déjà un épidémiologiste en herbe.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Jérémy, tu voulais nous parler du public dans les concerts. Est-ce que tu vas nous expliquer comment les pogos se forment en prévision du Hellfest à Clisson cet été ?
En voilà une question très intéressante. Après une recherche rapide sur Google Scholar, je suis tombé sur un article étonnant. Neurological Implications and Neuropsychological Considerations on Folk Music and Dance. Ce travail propose de faire le lien entre les danses et certains états du cerveau, comme par exemple comprendre les conditions liées à l'émergence d'une pratique comme le pogo. Je ne suis pas expert du sujet, c'est la raison pour laquelle je vous laisserai aller consulter ce document et vous faire un avis par vous-même. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un tout autre phénomène, les foules qui chantent juste. L'effet peut être saisissant, comme dans l'extrait qui va suivre. Lors d'un concert à Montréal, Bobby McFerrin propose au public de chanter l'Ave Maria pendant qu'il entonne un célèbre prélude de Bach. Et cela donne ça. Comme vous l'avez dit Hélène, le formidable Mehdi Moussaïd dans la vidéo « Pourquoi la foule chante toujours juste ?» tente des éclairages sur ce phénomène. Et ce n'est pas facile car peu de travaux scientifiques le traitent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, notre esprit n'est pas des plus efficaces dès lors qu'il s'agit de penser. Il excelle plutôt dans la création d'automatismes et d'habitudes. Dites-nous donc, Florine Brémond, le fonctionnement de notre cerveau n'est-il pas un frein à l'activité scientifique ?
Eh bien, peut-être. Si je vous demande quel est le but des sciences, vous me répondrez probablement qu'il s'agit d'acquérir de nouvelles connaissances. Certains ajouteront peut-être que ces connaissances doivent elles-mêmes servir un objectif comme résoudre la faim dans le monde, guérir le sida ou trouver une nouvelle énergie. D'autres s'opposeront à cette dernière affirmation en prenant l'exemple de recherches en physique quantique qui ont permis a posteriori l'invention des ordinateurs et des panneaux solaires. Dans tous les cas, mission ou non d'une étude, on en revient toujours à la recherche de connaissances. Nous considérerons ici une connaissance comme l'objet ou l'acte de se faire une représentation, de s'informer ou d'être informé de l'existence de quelque chose. Autrement dit, la connaissance est l'idée formée par ces différentes activités. On distingue plusieurs types de connaissances. Celles sociales, culturelles, historiques, autobiographiques, etc., etc. Celles immédiates de notre environnement proche, qui passent par les sens notamment, et les connaissances scientifiques, qui sont les connaissances liées à un domaine d'étude spécifique et qui désignent les savoirs obtenus par le biais d'une méthode d'étude et de recherche dans cette discipline.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
En janvier 1979, la CFDT lance Radio SOS Emploi, une petite antenne sans beaucoup de moyens et encore moins d'ambition. Mais dans la sidérurgie, c'est la CGT qui est ultra majoritaire, et elle n'entend pas rester sans voix pour mobiliser. Au siège parisien, où on ne parlait pas encore de pôle communication, c'est la section propagande du syndicat qui prend la décision de créer une radio, Lorraine Cœur d'Acier, qui sera gérée par l'Union départementale Meurthe-et-Moselle de la CGT. LCA, Lorraine Cœur d'Acier, est lancée pour quelques jours seulement, dans le but de mobiliser toute la population pour la grande manifestation du 23 mars 1979 à Paris. Elle dispose pour cela d'importants moyens. Deux journalistes communistes, Marcel Tria et Jacques Dupont, sont envoyés de Paris. À l'antenne, le direct et les discussions sont mis en avant. Mieux, LCA ne se cache même pas. Elle se montre au grand jour en s'installant dans l'hôtel de ville de Longuyo, avec la bénédiction du maire. Et le curé du village a même prêté son clocher pour héberger l'antenne.
Le Labo des Savoirs, la radio savante.
Le progrès scientifique a-t-il des limites, Morgane Guillet?
D'immenses progrès ont été accomplis par différentes disciplines durant le XXe siècle. Chaque jour, des milliers d'articles scientifiques sont publiés dans tous les domaines et nos capacités de prédiction s'accroissent. Ce savoir pourrait-il s'étendre à l'infini? Nous pouvons avoir l'impression que si certains phénomènes échappent encore à la science, c'est uniquement parce que nos théories ne sont pas encore achevées. Imaginez alors jusqu'où pourrait aller la connaissance dans le futur. Grâce au progrès scientifique, vous pensez qu'il sera peut-être possible, un jour, de prédire le temps qu'il fera dans un mois. Eh bien, vous vous trompez. Les prédictions météorologiques sont intrinsèquement limitées, et les scientifiques en ont conscience. Ils ne pourront jamais prédire plus d'une ou deux semaines à l'avance le temps qu'il fera. Prenons un modèle simplifié de l'atmosphère avec seulement trois paramètres à prendre en compte. La pression, la vitesse et la température, comme si tout le bulletin de météo de la Terre tenait en seulement trois nombres. On entre ces trois nombres dans l'ordinateur, puis on laisse la machine calculer les états suivants. On obtient une courbe qui représente l'évolution du système dans le temps. Maintenant, imaginez qu'on recommence en prenant quasiment les mêmes nombres. Eh bien, la courbe obtenue sera totalement différente. La moindre petite variation du système initial peut entraîner un immense changement dans les prévisions. En d'autres termes, un simple mouvement d'air créé par un battement d'ailes de papillon pourrait provoquer une tornade à l'autre bout du monde. Et celui d'une abeille pourrait empêcher cette même tornade d'apparaître. C'est ce qu'on appelle la théorie du chaos, ou l'effet papillon.
Alors si la soie a donné son nom à ses routes, c'est qu'elle doit être particulièrement fascinante. Valentin est là pour nous parler un peu plus de l'étrangeté de cette matière.
Si la route de la soie fut si rentable, c'est avant tout pour cette précieuse ressource qu'est la soie. Une fibre si fine et si douce que le secret de sa fabrication est resté jalousement gardé par les Chinois jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Nous sommes rendus au XXIe siècle et je me propose de vous expliquer la nature propre de ce composé merveilleux. Lorsque l'on touche de la soie, il est difficile de savoir d'où est-ce qu'elle provient. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très vegan-friendly. En effet, la soie est obtenue à partir de sécrétion d'une espèce de papillon unique, Bombyx mori ou Bombyx du mûrier, un petit papillon blanc introuvable à l'état sauvage, signe de sa domestication très ancienne. Tous les papillons subissent une métamorphose complète, ce qui en jargon scientifique signifie qu'il passe par une phase immobile avant de devenir adulte, ici appelé chrysalide. C'est lors de cette métamorphose de chenipan vers chrysacier que la chenille va sécréter un fil unique allant jusqu'à 1500 mètres de long, 1,5 km de fil. À l'intérieur de ce douillet cocon, la chenille va former une chrysalide, une enveloppe solide dans laquelle l'un des plus grands miracles du vivant se produit et d'où sortira un papillon blanc comme neige, prêt à se reproduire après avoir dissous son cocon.
Vous cherchez la science ? Ne quittez pas. Ne quittez pas, ne quittez pas.
Tiens, Dounia, je te passe le limonadier.
Oh.
Fais-en bon usage.
Merci beaucoup, c'est très aimable de ta part. D'ailleurs, je crois que tu vas nous parler de quelques traditions plutôt culinaires de Noël.
Exactement. Préparez-vous, les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Et qui dit fête de Noël et fête de fin d'année plus généralement dit repas en tout genre, avec la famille, les amis, les collègues de travail, les co-chroniqueurs de la radio, etc., etc. Traditionnellement, ces repas, en tout cas celui après la messe de Noël, sont longs, avec de la viande à toutes les sauces, sous toutes les formes, parce qu'avant cette messe de Noël, on ne mange traditionnellement pas de viande. Ce sont alors les repas maigres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le christianisme, on ne mangeait pas aussi fastement au moment des fêtes de fin d'année, mais il se passait plutôt un changement de l'ordre établi, un arrêt du travail, une libération temporaire des esclaves pendant un jour ou deux, par exemple. Et depuis quelques centaines d'années, dans la plupart des pays européens, on mange.
Alors, Sophie est avec nous, grande habituée des utopiales, comme on dit ici, les utopes. Tu as fait un petit tour d'horizon des codes de la SF.
Oui, tout à fait, parce que je viens aux utopiales depuis presque 10 ans. Donc j'ai découvert la SF quand j'étais toute jeune et je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 codes un peu surutilisés. Et déjà, le thème de cette année, c'est coder l'avenir. Et alors, moi, parler de notre avenir aujourd'hui, ça me fait penser du coup à la Sophie de 12 ans qui découvrait pour la première fois les expositions, les conférences, les ateliers, les projections de science-fiction. Et à cette époque, 2019, bah, c'était mon avenir. Et bon, j'avais vraiment pas forcément envie d'y être. Parce que pour moi, tout aurait été plus simple si j'avais été dans un monde de science-fiction. Déjà parce qu'on aura tous des costumes steampunk, et ça c'est quand même vachement stylé. Mais surtout parce que la science-fiction, c'est un monde où tout est plus grand, plus extraordinaire, plus fou. Les codes sont multiples, les univers infinis. Mais bon, comme je disais, parfois, il y a besoin d'un peu de renouveau. Alors je vais vous citer quelques exemples, ça me démange un petit peu. Commençons par les vaisseaux spatiaux. Star Wars nous a appris que la gestion de la vitesse de la lumière, par exemple, n'est absolument pas un problème, de même que le non-respect des lois de la physique. En effet, le son dans l'espace ne semble faire tiquer absolument personne. Mais bon, après, tout ça, ça rentre dans le concept de la suspension consentie d'incrédulité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est, en gros, si ça fait sens dans l'univers fictif, si ça aide au récit, bon bah personne va s'en plaindre. Une scène de bataille spatiale dans Star Wars où il n'y a pas de son, ce serait assez triste au visionnage.
C'est le labo des savoirs.
On y va.
On l'a bien compris tout au long de cette émission, si des mondes extraordinaires, colorés, voire vivants existent jusqu'aux confins de notre galaxie et même au-delà, nous ne sommes hélas pas prêts et prêtes de fouler leur sol, n'en déplaise au commandant Jack O'Neill et le reste de l'équipe de Stargate SG-1. À ce jour, malgré plus de 4000 exoplanètes détectées, rappelons que nous n'avons qu'une seule planète, irremplaçable, notre Terre. C'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et tous de l'avoir suivie. Merci à nos deux intervenants du jour, Martin Turbet et David Fossé, ainsi qu'à nos chroniqueurs Vassili Moreau et Valentin Brochet. Cette émission ainsi que toutes les autres sont disponibles sur le www.labodessavoirs.fr. N'hésitez pas à commenter et recommander sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci au Labo des Savoirs pour cette petite capsule et merci à toute l'équipe de cette année pour avoir travaillé avec moi. Alors merci Élise, Louise, Eva, Roura, Laetitia, Jasmine, Robin, Diane, Lisa, Thomas et Johan, ainsi qu'à tous les ponctuels qui nous ont accompagnés. Vous retrouverez le Masque et la Prune dès demain à 18h. Quant à nous, eh bien comme la saison est finie, on vous retrouve la saison prochaine pour de nouvelles aventures. Merci mille fois de nous avoir suivis. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions en podcast sur le www.prune.net. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Restez sur Prune 92 FM. À la prochaine.
Le Masque et la Prune. C'est une capsule sonore à retrouver sur Prune chaque jour à 18h. Tant qu'il y aura des masques. Tu souhaites t'investir dans un média jeune et associatif ? Chaque saison, 250 bénévoles intègrent le projet Prune pour se former à la radio et au journalisme. Rejoins-nous pour participer à nos quotidiennes et à nos plateaux extérieurs, ou bien partager ta passion dans ta propre émission. Remplis une fiche de candidature sur le www.prune.net, rubrique « Nous rejoindre ».